Maintenant, j'aimerais aborder ce qui peut se produire dans un couple, c'est les conflits. Alors, les conflits, on va lire un texte, c'est donc la troisième partie, dans le Proverbe 21 et le verset 19. Proverbe, chapitre 21, le verset 19. On fera une lecture pour introduire ce sujet. « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Voilà. Donc, concernant la relation du couple, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un amour, bien sûr, mutuel. L'homme doit aimer son épouse, l'épouse doit aimer son mari. Et c'est le véritable amour chrétien qui est ce ciment d'unité du couple. Le mariage, selon Dieu, c'est l'engagement d'un homme et d'une femme qui s'engage à s'aimer et à se soutenir pour la vie, à s'engager pour une durée de toute la vie. Alors c'est vrai que le véritable amour, dont nous avons déjà parlé dans les précédentes réunions, le véritable amour qui vient de Dieu, eh bien c'est un amour qui est dans la durée, qui n'a rien à voir avec un sentiment amoureux passager, une émotion de quelques instants et puis sans lendemain. Voilà. Ça, c'est un autre aspect de l'amour émotionnel. Bien que dans l'amour aussi que nous avons pour le conjoint, il y a l'émotion. Il ne faut pas le dénigrer. Mais il y a cet aspect de volonté de durer et d'aimer dans le temps. Alors, autrefois, avec la mortalité, la vie commune d'un couple était en moyenne d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça arrive jusqu'à 50 ans ou plus de vie commune. Et certains pensent aujourd'hui que ce n'est pas possible de tenir une si longue durée avec la même personne. On entend parfois des médecins ou des gens qui expliquent qu'on ne peut pas vivre toute la vie ensemble. Aujourd'hui, cette notion de couple est même parfois dévalorisée dans le sens où on valorise davantage dans ce monde l'amour libre. Le couple est parfois vu comme une prison, c'est-à-dire qu'on est obligé de rester avec la même personne jusqu'à la mort. Voilà. C'est comme une condamnation, comme quelque chose de pénible, alors que bien le monde valorise la liberté, l'épanouissement individuel, quitte à briser une famille, mais l'important c'est que la personne s'épanouisse et voilà, cherche son bonheur. Et cela va justifier toutes sortes de brisements, de multiples relations extra-conjugales, etc., parce que bien on entend ce message que ce n'est pas possible de rester avec la même personne toute sa vie. Or, nous croyons ce matin, nous chrétiens, que c'est possible de rester avec la même personne toute sa vie. Et c'est même la volonté de Dieu. Le mariage, donc, est valorisé dans la parole, et le mariage, ce n'est pas une prison, mais c'est une bénédiction de Dieu. Bien sûr, dans le monde, il y a ce message qui est véhiculé. Je pense à cette citation de Montaigne qui disait « Un bon mariage est l'association d'un mari sourd et d'une femme aveugle ». C'est pas très, voilà, c'est pas très valorisant pour le mariage. Donc il y a cette sorte de dénigrement. Alors, qu'est-ce qu'un conflit? Puisqu'on va parler du mariage, mais spécifiquement des conflits. Du latin conflictus, donc un heurt, un choc, qui n'est pas nécessairement violent, mais qui peut le devenir si le conflit n'est pas accepté, s'il n'est pas géré et réglé. Donc il y a toutes ces étapes dans la gestion d'un conflit. Le conflit n'est pas forcément négatif, mais il va révéler des situations qui va mettre en lumière certaines choses et il va falloir ainsi réagir de manière appropriée. Est-ce que le couple chrétien est à l'abri des conflits? Évidemment, on peut imaginer deux chrétiens, nés de nouveau, qui aiment le Seigneur. Comment peuvent-ils rentrer en conflit dans un couple? Bien. Malgré toute la bonne volonté de chacun, les conflits sont incontournables et ils existent dans les couples. Les causes sont multiples. Pourquoi y a-t-il des conflits dans un couple? Déjà à cause des différences hommes-femmes, dont nous avons déjà parlé dans les réunions précédentes, mais aussi à cause des tempéraments, ne serait-ce que la différence de tempérament, d'éducation. On oublie souvent aussi, mais il y a tout le passé de la personne qui entre en jeu, et suivant les événements qu'elle a vécus, eh bien ça peut créer aussi des tensions, des difficultés dans sa relation, dans son couple. Il y a les problèmes liés à la sexualité, liés à la gestion de l'argent, liés au manque d'amour, etc., etc. Il y a multiples facteurs de conflits qui vont créer des conflits. Alors, si les conflits sont niés ou refoulés, justement parce qu'on est chrétien et qu'on se dit qu'on ne doit pas avoir de conflits, ben, tôt ou tard, s'ils sont, on va dire, couvés à l'intérieur du cœur, tôt ou tard, ça va ressortir d'une autre manière, peut-être plus violente, encore pire, que s'ils sont traités au moment où ils surviennent. Donc, pour préserver l'unité du couple, bien sûr, les conflits devront être gérés et dépassés, et non pas mis de côté le plus longtemps possible, en espérant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Alors, on va voir deux parties. La première, maintenant, la première partie, c'est, j'ai pensé commencer en parlant des phases de la vie d'un couple. Il y a quatre phases dans la vie d'un couple qu'on peut remarquer. Enfin, ça, c'est ceux qui ont étudié le sujet qui le déterminent. Le couple qui se marie, en fait, a tout à construire. Il part dans une grande aventure. Alors, on a l'impression, quand on est célibataire, que le mariage, c'est l'aboutissement, c'est ça y est, on est arrivé à un but. Mais en réalité, ce n'est qu'un commencement d'une construction qui va durer toute la vie. Donc, le mariage, c'est un commencement. Je prends l'exemple de Jésus qui parle de cette parabole des deux maisons. Vous connaissez cette histoire, cette parabole, lorsque il y en a un qui va construire sur le sable et l'autre qui va creuser profondément jusqu'au roc. Bien, ça me fait penser dans la famille, je crois dans le couple, c'est la même chose. Si nous voulons un couple solide, qui va tenir bon dans l'épreuve, dans les difficultés, il nous faut prendre le temps de creuser jusqu'au roc, c'est-à-dire de fonder ce couple sur Christ, afin qu'il ait des bases solides dans les moments difficiles. Alors effectivement, les épreuves vont s'abattre sur nos maisons, sur les foyers, sur les couples. Et ceux qui sont véritablement, qui ont pris le temps de creuser, qui ont pris le temps de se connaître, d'avoir une relation solide, eh bien, ils tiendront dans l'épreuve et dans le temps. En parlant du temps, le temps va être un révélateur aussi de la solidité d'un couple. Parce que le temps, soit il est un ennemi, soit il est un allié. S'il est un allié, si on utilise le temps pour davantage connaître l'autre. Si on utilise le temps pour bâtir ensemble, pour partager, pour consolider une relation. Mais le temps peut devenir un ennemi dans le sens où, si on ne veille pas, l'amour va diminuer et il va parfois même s'étioler, disparaître. Si on ne prend pas le temps, il va y avoir un manque de connaissances, des désaccords et l'usure, la routine du quotidien qui va faire son œuvre et ainsi qui va briser ce lien qui était pourtant voulu au départ, en tout cas, pour la vie. Alors, durant cette vie commune, on estime à quatre phases par lesquelles un couple va passer. Première phase, c'est ce que les spécialistes appellent la lune de miel, qui dure environ un an. Un an. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour béat, où le conjoint ne voit pas les défauts de l'autre. Il y a un proverbe qui dit « l'amour rend aveugle ». Mais le mariage lui rend la vue. Alors c'est une période de vie exclusivement tournée vers le couple. C'est une vie, on va dire, qui est centrée sur ce petit bonheur que l'on a trouvé et que on idéalise en fait. On idéalise une relation à deux, presque comme si on se coupait sur une île déserte. On a trouvé l'autre et on veut lui plaire, on veut l'aimer, etc. Il y a une sorte d'élan. Et il y a assez peu de conflits dans cette première partie. D'ailleurs, les scientifiques expliquent qu'un phénomène physique qui se produit quand on est dans cette partie de la lune de miel, c'est que, en fait, il y a dans notre cerveau quelque chose qui se passe qui fait que l'on ne voit pas les défauts de l'autre. Il explique que c'est physique, en fait. C'est quelque chose qui agit dans le corps. Et puis qui diminue avec le temps. Voilà. Donc, la phase de la lune de miel passée, nous arrivons à la deuxième phase de la vie du couple, c'est les premières années de 1 à 5 ans environ, c'est un petit peu variable bien sûr, qu'on peut appeler une période critique, puisque déjà là, un nombre important de divorces surviennent dans cette première partie, plutôt dans cette deuxième partie. Dès même la première année, l'issue de la première année, il y a déjà certains conflits, gros conflits qui éclatent et qui poussent au divorce. Il y a les premières désillusions sur le conjoint qui tombent à ce moment, c'est-à-dire quand on commence à voir justement les défauts qu'on n'avait pas vus. Il ou elle n'est pas finalement comme je l'avais pensé. Alors on découvre aussi une chose qu'on n'avait pas bien compris, c'est que l'autre est une personne avec son passé, son vécu, ses expériences qui peuvent être douloureuses, parce que chacun nous sommes porteurs de souffrances et de certaines difficultés. Et quand les deux s'assemblent pour former un couple, eh bien ces difficultés sont quand même à l'intérieur de chacun. Il y a la personnalité de l'autre. Peut-être que nous découvrons au fur et à mesure, bien sûr, on n'avait pas tout vu, et petit à petit, il y a les habitudes, son éducation, sa culture, etc., etc. Et tout cela, eh bien, c'est comme une découverte. Alors, on peut le prendre d'une manière positive, mais on peut le vivre d'une manière difficile, en se disant, « Oh là là, il va falloir que je supporte tout ça que je n'avais pas vu au début, et maintenant, il ou elle agit comme ça, etc. » Et cela ne nous convient pas. Alors, voilà, soit on va s'adapter, soit il y a une sorte de rejet, on n'accepte pas, mais pour passer ce cap, il va falloir aussi faire des compromis, accepter les différences. Il y a aussi dans ce temps la désillusion sur soi-même. On est déçu de l'autre, parce qu'on ne pensait pas qu'il était tout à fait comme ça, mais aussi de soi-même. Pourquoi ? Parce que l'autre renvoie une image de nous-mêmes qui ne nous convient pas. Parce que nous-mêmes, nous nous idéalisons quelque part un peu. C'est ce qu'on appelle l'image de soi, ou l'orgueil, le moi, on a l'impression qu'on est quand même mieux que les autres. Donc, la plupart des gens qui ont cette estime de soi élevée n'acceptent pas l'image qui est renvoyée et la remise en question de leur propre personnalité. Les multiples problèmes qui peuvent survenir, comme la gestion financière, la relation avec la belle-famille aussi, qui dans certains cas peut être dramatique. C'est vrai qu'il y a un facteur ici de source de conflits importants lorsque, par exemple, un conjoint n'est pas accepté par la belle-famille. Ça se produit. Ou alors, le rejet à cause de la foi, parce que, admettons que la belle-famille soit non-croyante, et puis qu'il y a un croyant là-dedans, enfin, ça peut faire un rejet par rapport à l'Évangile, et quelqu'un qui a pris le fils ou la fille, etc., pour l'entraîner, voire dans une secte, et il y a toutes sortes de conflits qui peuvent intervenir à cause de ces situations. Voir aussi la venue d'un enfant, la venue éventuelle d'un enfant, donc, ou sa non-venue, parce que s'il n'y a pas d'enfant, peut-être qu'il y a un problème de stérilité qui va être une source aussi de conflits, de difficultés dans un couple. La venue d'un enfant va bouleverser toutes les, justement, toute cette, on va dire, cette structure qu'avait fait le couple. Il s'était mis un petit peu à part, en retrait, pour vivre avec exclusivement centré sur lui, et l'enfant va venir en troisième position, là, intervenir entre le père et la mère, donc tout ça va bouleverser le couple. Cette période est bonne dans un sens pour permettre une consolidation du couple et préparer les années justement avec la venue des enfants. Et pour dépasser les conflits, il va falloir davantage communiquer, apprendre à se connaître, connaître mieux les attentes de l'autre et ses différences, peut-être qu'on avait occulté au départ, mais il ou elle est profondément différent de nous et il va falloir que j'accepte la différence et en même temps, bien que je continue à l'aimer, que je continue à partager avec la personne avec qui je me suis engagé. Mais si je veux absolument éviter les conflits et éviter toujours les sujets qui fâchent, ça va créer une sorte de rancœur intérieure. On intériorise beaucoup. Et on se dit, on verra ça plus tard. Et puis un jour ou l'autre, paf, ça surgit. Mais justement, un moment où on n'avait pas préparé, et ça éclate en drame. C'est là qu'il y a des grosses difficultés, quand les conflits ne sont pas réglés. Troisième partie qu'on peut voir, troisième phase, une phase déterminante, environ 5 à 15 ans de mariage, où là, c'est, on peut dire, la phase où il y a le plus de divorces et où les conflits sont les plus importants. Les époux sont dans la quarantaine. Il y a d'un côté une perspective de carrière, de promotion, parfois l'éloignement du foyer, qui n'est pas favorable aussi pour les familles. Et puis le conjoint qui se retrouve plus souvent maintenant avec les collègues du travail, voir si c'est un homme collègue féminin, des tentations, des confidences par rapport à sa situation de couple s'il est en difficulté. Il y a des études qui montrent que c'est sur le lieu de travail qu'il y a le plus d'occasions de tromper son conjoint que partout ailleurs, parce qu'il y a justement un temps considérable passé avec des collègues. Et puis, tous ces tentations de parler de quelque chose de personnel à quelqu'un, de se confier en quelqu'un, si on ne choisit pas la bonne personne. Et puis après, vous voyez, ça crée un lien entre ces deux personnes, surtout si un homme se confie à une femme ou une femme se confie à un homme extérieur au couple, eh bien ça va tout de suite créer un lien entre ces deux personnes qui peut mal tourner. Il y a aussi dans cette phase l'acquisition d'une maison éventuelle, donc un endettement, des difficultés financières qui surviennent, la fatigue de l'épouse parce que si elle a eu plusieurs enfants, par exemple, les grossesses successives ont pu toucher sa santé. Et donc, lentement, si la gestion des crises n'est pas réglée au quotidien, bien tous ces facteurs font qu'il va y avoir des conflits, des séparations, des ruptures entre les conjoints. C'est pour ça que c'est très important de veiller à l'unité de nos foyers, de notre couple, pour ne pas céder à toutes ces tentations. Certains vivent déjà, malgré qu'ils soient en couple, une certaine rupture parce qu'ils ne parlent plus à leur conjoint ou ils évitent tout sujet qui va créer une polémique. C'est ce qu'on appelle une rupture émotionnelle. Et comme on est des êtres émotionnels et qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé, si on n'est pas comblé dans son couple, eh bien la tentation c'est de chercher l'affection ailleurs. Et de chercher l'affection auprès d'une autre personne que son conjoint, et voire, dans certains cas, d'arriver à mener une double vie. C'est-à-dire, on a la vie au foyer, ça ne va pas bien, et puis, en même temps, il y a certains qui vivent au travail, et qui commencent à avoir une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre, une sorte de flirt, et qui vont ainsi bien être en grand danger, mettre en danger leur couple, et tomber malheureusement dans l'adultère et toutes ces choses. Donc, pour préserver l'avenir du couple, il faut tenir compte des conflits, les gérer, les régler au fur et à mesure qu'ils arrivent. On va dire résoudre les différends d'une manière ouverte et positive, parce que le couple en difficulté, eh bien, a besoin de se placer devant le Seigneur, d'attendre vraiment l'aide de Dieu, peut-être le secours d'une aide extérieure aussi, quand on n'arrive pas à s'en sortir, mais je dirais une aide compétente et discrète, pas quelqu'un qui va étaler ou qui va empirer la chose ou qui va l'étaler à d'autres. Ce sera quelqu'un évidemment de confiance et de capable aussi dans ces domaines qui sont très particuliers pour aider un couple, pour aider à restaurer. Bien sûr, on a l'aide de Dieu, du Seigneur, mais parfois une aide d'une personne va être favorable. Quatrième phase d'un couple, c'est le vieillissement ensemble. C'est la phase, on va dire, où le couple est passé par certaines tempêtes déjà et a maintenu l'unité. Ils sont restés ensemble. Les enfants commencent à quitter la maison, le couple va se retrouver seul, un petit peu comme ils étaient au départ finalement, cette lune de miel. Et c'est le temps d'un nouvel engagement, d'une nouvelle orientation pour le couple. Il n'y a plus les mêmes charges au niveau de la maison. Alors ces couples qui vivent ensemble, si longtemps, ils partagent tout, les joies, les peines. Ça ne veut pas dire que cette phase, c'est la fin et qu'il n'y aura plus de difficultés, parce que des sources de conflits peuvent encore arriver. Par exemple, le mari va arriver à la retraite, il va se retrouver tous les jours à la maison. Et pour les, c'est un changement aussi, ça. Et pour l'épouse, voilà. Et puis, il y a la peur du vieillissement. Les facultés qui diminuent. Et combien on se sent inutile. Quand on arrive à un certain âge, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Et cela peut créer un sentiment de désespoir, dépression. Et donc, les difficultés peuvent survenir encore. J'aimerais voir maintenant, dans une deuxième partie, tous les exemples dans la parole, enfin, quelques exemples de conflits. Alors, je disais, est-ce que c'est possible, entre deux croyants, d'avoir des conflits? On va voir que, dans Genèse, chapitre 3, verset 9, si on regarde le premier couple, déjà, ils ont commencé, dès qu'ils ont péché, il y a eu des conflits entre eux. Genèse, chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Amen. On arrête la lecture ici. Et on voit de suite que le péché, étant entré dans le monde, a produit une relation conflictuelle entre Adam et Ève. Tant qu'ils étaient parfaits, il n'est pas mentionné qu'ils ont eu de difficultés relationnelles. En fait, ils se comprenaient parfaitement, il y avait une acceptation totale de l'autre, c'était la perfection en Dieu. Mais le péché on l'a pas lu, mais c'était au verset 7, le péché a changé la chose, parce que la Bible dit « leurs yeux se sont ouverts », leurs yeux s'ouvrirent. Ils s'ouvrirent sur la réalité maintenant, la réalité de l'autre, la réalité du péché. Ils ont réalisé leur nudité non seulement physique, mais spirituelle, c'est-à-dire physique dans le sens où ils ont eu une gêne l'un vis-à-vis de l'autre, leur relation, la relation homme-femme maintenant, a changé, il y a une déception de l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi leur misère spirituelle, nudité spirituelle, c'est-à-dire ils sont maintenant pécheurs, ils savent qu'ils ont désobéi à Dieu, que la désillusion est grande, parce que le diable leur avait fait entrevoir qu'ils allaient être comme Dieu, qu'ils allaient connaître des choses merveilleuses, mais maintenant, eh bien, la désillusion est là. Et alors qu'ils étaient prévus qu'ils vivent éternellement dans la sainteté, maintenant ils sont propulsés dans le péché et ils se cachent. Ils se cachent avec des feuilles de figuier, ils se cachent, la Bible dit, loin de l'Éternel, derrière les arbres du jardin, comme si Dieu ne voyait pas leur situation. Alors j'aimerais voir quelques trucs. Premièrement, on voit qu'il y a un manque de considération pour le conjoint, au verset 12, regardez. L'homme répondit, « La femme que tu as prise auprès de moi. » Adam, dans sa manière de parler de la femme, bien, il n'a pas une grande considération pour son épouse. Parce que c'est celle-là, c'est l'autre. Le temps de la lune de miel, c'est comme s'il était déjà passé maintenant. Et cette aide qui devait être semblable à lui, c'est la femme. C'est celle-là, ou c'est l'autre, l'autre qui finalement, je n'attendais pas ça de sa part. Donc ce n'est pas un discours affectueux qu'il a vis-à-vis de son épouse, la concernant, mais c'est elle. elle, qui ne correspond pas à ce qu'il attendait d'elle, justement. Alors, il vit en plein dans le temps des désillusions concernant le conjoint. Il voit les différences maintenant qui apparaissent. Et aujourd'hui, ça va être des sources de tension, de difficultés entre Adam et Ève. Ève, d'ailleurs, a pu se sentir blessée de la manière dont son mari a parlé d'elle et a pu se sentir humiliée dans cette affaire. Parce qu'un conflit, on le sait, il produit toujours des blessures dans le cœur de l'un, dans le cœur de l'autre. Ève peut sentir un sentiment de rejet, parce qu'elle avait quand même confiance en Adam, elle aimait Adam aussi, et elle se sent trahie, parce qu'il la dénonce auprès de Dieu. Et puis lui ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il exprime sa souffrance aussi. Tout ça, c'est lié à un contexte du péché, et il veut se déculpabiliser. Deuxième chose qu'on voit, c'est la fin du verset 12. Il est dit... que Adam va accuser Ève. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. » Une accusation de l'autre. Pour se déculpabiliser, Adam va accuser son épouse. D'abord, il va accuser Dieu. « C'est la femme que tu, c'est-à-dire toi, Dieu, tu l'as mise auprès de moi. » C'est donc Dieu qui l'a créée. Et finalement, c'est un peu de la faute de Dieu si on est arrivé dans cette situation. Or, Dieu n'est pas l'auteur du mal, et Adam ne fait que récolter ce qu'il a semé. Mais en réalité, certaines fois, il y a des chrétiens qui arrivent à rendre Dieu responsable de leurs échecs, de leur situation, alors que Dieu n'y est pour rien, mais on a semé et on a récolté ce qu'on a semé. Donc Dieu, bien sûr, n'est pas responsable. Ensuite, il accuse Ève d'être responsable, puisque c'est elle qui a désobéi et qui a entraîné Adam à manger du fruit. Et Adam va ainsi se placer en victime. Dans les conflits, en général, il y a toujours cet aspect de se placer en victime d'un sort inéluctable. C'est la faute des autres, moi je ne suis pas coupable. Il va charger son épouse, et il aurait pu réagir tout autrement, d'une manière spirituelle, on peut dire. En avouant tout à Dieu, dès qu'Ève avait péché, en suppliant le Seigneur, et... Voilà, il préfère accuser son épouse. Alors dans un conflit, c'est comme ça, on a toujours tendance à accuser l'autre d'être le responsable. C'est ma femme, c'est de la faute de ma femme si on est dans cette situation. Donc c'est d'accuser l'autre de tous nos problèmes. Il doit changer ou elle doit changer, il ou elle doit reconnaître son péché, il ou elle doit demander pardon à Dieu, etc. etc. Donc toute la faute est sur l'autre. Adam ici manque de compassion. Il va accuser, juger, condamner rapidement. Et dans certains conflits, on ne voit que les défauts chez l'autre. Adam ne voit plus toutes les qualités de son épouse, mais il va voir bien ce qu'elle a fait de mal. Et ça va être dans un langage extrême. Alors on utilise, vous savez, ces mots « toujours ». Il est toujours comme ça, il fait toujours les mêmes choses. Ou « elle ne fait jamais ceci ou jamais cela ». C'est ce qu'on utilise couramment pour montrer à l'autre que ça ne va pas. À certains points, les conflits vont exploser et tout ce qu'on appréciait chez l'autre, même sa voix, son comportement, son rire, tout ce qu'on aimait, les conversations, etc., va devenir irritant parce que dans une relation conflictuelle, on ne supporte plus l'autre. Troisième point, c'est un arrangement de la vérité. Regardez le verset 13, où Ève va un petit peu arranger la vérité, disons, à son avantage. Enfin, disons, elle ne va pas tout dire. Elle va dire, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc elle ne rejette pas la faute sur Adam ou sur Dieu, mais sur le serpent. Elle ne dit qu'une partie de la vérité ici, et elle ne dit pas tout. Vous voyez, elle omet de dire qu'elle a pris du fruit, qu'elle en a mangé et qu'elle en a donné à son mari. Donc, elle a persévéré dans son péché et qu'elle a, elle aurait pu demander pardon à Dieu, se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Donc, tout ça, elle ne le reconnaît pas. Dans un conflit, on s'arrange toujours pour arranger la vérité à notre avantage. C'est-à-dire, on va raconter la partie qui nous met le moins en cause et qui va mettre davantage... La charge sur les épaules de l'autre. c'est se faire passer pour une victime, c'est se faire plaindre, c'est vouloir que montrer qu'on n'est pas si mal que ça et finalement ben, que ce n'est pas de notre faute si c'est arrivé comme ça. Adam et Ève vont devoir surmonter ce mauvais démarrage et apprendre à vivre malgré maintenant leurs péchés, malgré leurs différences. Et ils auront besoin de dialogue, de pardon. Et chacun devra reconnaître ses torts, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est là qu'il peut y avoir des pardons et des réconciliations. Je vous cite un autre exemple. Deuxième exemple, c'est David et Michal. 2 Samuel chapitre 6 et le verset 16. 2 Samuel chapitre 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et puis on passe au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux, néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, quand on connaît l'histoire de David et Michal, on sait qu'il y a eu un véritable amour entre ces deux personnes, puisque Michal était la fille de Saül, et David était pris d'elle, mais il ne se sentait pas digne d'épouser la fille du roi. Alors Saül, qui voulait la perte de David, a dit, je te donnerai la main de ma fille si tu arrives à tuer une centaine de Philistins. Et il espérait bien que David allait mourir dans cette affaire. Et puis David a accompli l'exploit. Pourquoi ? Parce qu'il aimait Michal, et quand on est amoureux, on est capable de faire des choses un peu folles. Et ensuite, on voit très bien que Michal aimait David éperdument, puisque à nombreuses reprises, elle l'a épargné. Son père était fou, il voulait tuer David et elle a permis qu'il soit sauvé, etc. Donc, il y a eu des années d'amour intense, de bonheur. Et puis, avec le temps, ici, en tout cas dans ce passage, la relation a été détériorée. D'abord, au verset 16, on peut voir qu'il y a un mépris. On l'a lu tout à l'heure. Elle exprime un mépris dans son cœur vis-à-vis de son mari. Donc, ça commencera comme ça. 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Voilà. À la fin du verset 16, elle le méprisa dans son cœur. Donc, le premier amour qu'elle avait pour son conjoint a changé en mépris, a été changé en mépris ici. Et ce qu'elle admirait autrefois chez David, vous savez, David qui était quand même le vainqueur de Goliath, qui était loué par le peuple. Même on disait, David, Saül a tué ses 1000, mais David, ses 10 000. Et il y avait toute une sorte d'admiration pour David. Eh bien, elle ne le supporte plus aujourd'hui. C'est son mari. Et elle a du mal, en le voyant comme cela danser, à l'aimer. Elle entretient dans son cœur donc des mauvaises pensées à l'égard de son mari. Ça va créer de l'amertume, ça va créer sorte de difficulté. Deuxième chose qu'on voit, c'est au verset 20, où on voit une incompréhension complète entre les deux, puisque David vient pour bénir la maison, et vient d'une manière positive, on peut dire. Regardez le début du verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Donc lui, il a dansé devant l'Éternel, il est vraiment dans la joie, il rentre chez lui, il vient pour bénir sa maison, et voilà, à l'accueil, son épouse qu'il a vu danser, elle est dans une autre attitude. Le conflit peut survenir quand, justement, il y a une différence sur le plan spirituel entre les deux conjoints. On peut dire que, David est plus avancé sur le plan spirituel que Michal. Et quand David a dansé devant l'Éternel, c'était pas pour se donner un spectacle ou pour faire de n'importe quoi, mais c'était vraiment pour honorer Dieu. Mais ça, Michal ne l'a pas compris. Et elle a jugé son mari, qui pourtant était approuvé de Dieu, et elle l'a ainsi rejeté. Alors elle se sent blessée, on le voit dans ce texte. Elle ne comprend pas l'attitude extravagante de son mari, qui s'est mis à gesticuler comme ça devant tout le monde. Elle l'a trouvé ridicule. Et en fait, la honte de son mari pour elle a rejailli sur elle, puisque c'est son épouse, et son orgueil a été atteint. Elle a été touchée au vif dans sa fierté, parce qu'elle ne considère pas la royauté comme David a fait là devant le peuple. Elle lui dit, mais tu t'es avili, tu t'es découvert aux yeux des servantes, des serviteurs, comme un homme de rien. Vous voyez, elle a des propos quand même assez durs vis-à-vis de son mari. Et elle ne supporte pas que David ait fait cela. Troisième chose qu'on voit, c'est au verset 21. Verset 21. Alors là, ce qui va encore augmenter les conflits, c'est le rappel du passé. Parce que David, dans un conflit, il n'est pas rare de rappeler à quelqu'un ses erreurs passées. Et avec en plus cette conviction que comme tu l'as fait déjà, tu le recommenceras et tu seras toujours la même chose et tu referas toujours les mêmes erreurs. Donc David va rappeler à Michal son passé, c'est-à-dire sa lignée. Toi, tu es de la lignée de Saül. Et sous-entendu, la lignée de Saül, ce n'est pas celle qui a été acceptée par Dieu. Il dit, c'est ma lignée, c'est moi maintenant qui ai reçu l'onction, ta lignée a été rejetée, donc en quelque sorte, il dit à sa femme, mais toi tu n'es rien. Et si je t'ai gardé auprès de moi, tu ferais mieux de me remercier de t'avoir gardé parce que j'aurais pu te renvoyer. Alors, le passé négatif qui était là toujours à l'esprit finalement de David, va ressortir dans les conflits d'une manière plus intense. Et vous voyez, ce sont des paroles humiliantes, des paroles blessantes. Alors pour sortir d'un tel conflit, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de demander vraiment pardon à Dieu, de s'humilier et de demander pardon à l'autre pour le mépris. On voit que des mots assez vifs ont été échangés, comme un homme de rien, etc. Donc, dialoguer davantage, prendre le temps de surmonter ces incompréhensions, et arrêter de revenir aussi sur le passé, sur les erreurs, les échecs passés, pour entrer dans cette dimension du pardon et d'un nouveau départ. Un dernier exemple peut-être qu'on peut voir, c'est celui de Job, au chapitre 2 et au verset 7. Parce que Job aussi a eu un conflit ouvert avec son épouse ici, Job chapitre 2, verset 7. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Au début du livre de Job, on voit un homme heureux en famille, un homme comblé. Son épouse lui a donné 7 fils et 3 filles, qui est un signe de grande bénédiction. Et ainsi, on voit une famille heureuse, unie. Job qui prie pour ses enfants. Tout cela, c'est le premier chapitre. Et puis, de suite après, une série d'épreuves vont s'abattre. Et on sait que ça va être terrible pour le couple. Alors, la première chose qu'on voit, c'est les épreuves de la vie qui vont éprouver un couple, et là ça va être la mort de tous leurs enfants, d'une manière tragique et inattendue, et ça ne va pas laisser le couple indemne. Et puis ensuite, autre chose qui intervient, c'est la maladie, qui va toucher le couple, qui va toucher le corps de Job, et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour l'épouse, puisque c'est suite à cette maladie-là que sa femme va parler Job de cette manière. Alors elle dit 3 choses. Elle dit d'abord, elle vit dans l'incompréhension, on le voit. Elle dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Elle ne comprend plus l'homme avec qui elle vit. Pourtant, elle l'a aimé, elle a vécu avec lui, ils ont eu ses enfants. Mais maintenant, elle trouve que c'est trop. Ensuite, elle le pousse à renier Dieu, c'est-à-dire qu'elle est déçue de Dieu et elle rejette la foi de son mari, et elle-même ne veut plus entendre parler de Dieu. Et puis enfin, elle dit maudit Dieu et meurt, c'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas d'horizon, il n'y a plus d'avenir, tout est perdu, et puis il n'y a plus de bonheur possible. Évidemment, quand on subit un choc, comme la perte d'un enfant ou la maladie très grave dont il subit, il y a une sorte de rejet, une incompréhension qui s'installe dans le cœur. Et puis la deuxième chose qu'on peut voir, ce sont les reproches. C'est-à-dire que Job va la comparer à une insensée. Il lui dit, tu parles comme une femme insensée. Et ça aussi, ça va envenimer la situation. C'est l'hébreu Nabal qui signifie sot, imbécile, insensé ou bouffon. Ce sont des sortes de mots qu'on adresse à quelqu'un pour insulter. Donc dans les conflits, ça peut déraper par des propos qu'on n'arrive plus à maîtriser. On va traiter l'autre. Mais tu es idiot, ou tu es bête, ou tu es sotte. Enfin, bref, toutes sortes de choses dévalorisantes. Et ainsi, encore que quand c'est que des mots, mais des fois ça dérape encore en action avec des claques ou des coups de poing. Et on peut arriver même à une certaine violence. Donc, piqué au vif par les paroles, on répond par des paroles, voire par des actes qui dépasse notre pensée. Alors voilà, pour surmonter encore cette difficulté, ils auront besoin d'une restauration de Dieu, une restauration en profondeur, et on voit que la vie de l'un comme de l'autre est entièrement brisée, que ça soit Job, que ça soit son épouse, et la foi même de l'épouse a été affectée, puisqu'on voit qu'elle rejette Dieu, et qu'elle a vraiment besoin d'un retour à Dieu, d'une guérison intérieure, d'une délivrance, et il lui faudra certainement tout le soutien, la compréhension de son mari, de l'entourage, pour l'aider à revenir dans cette situation. Et vous savez que pour Job, c'est pas facile, parce que quand on est malade, c'est pas non plus facile de bien réagir. Job est dans une situation d'extrême maladie, et lui-même va avoir du mal à bien réagir dans cette situation. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour Dieu, il n'y a pas de cas trop désespérés, et que le Seigneur peut poser sa grâce dans ces situations. Je crois que le Seigneur connaît toutes choses. Je pense à la fin du livre, il y a un verset qui dit que Dieu a restauré cette famille et qu'il a rendu à Job les enfants qu'il avait perdus, que son épouse est revenue, etc. Donc on voit vraiment qu'il y a la grâce de Dieu quand même quand on se tourne vers le Seigneur, qui peut faire des miracles dans nos foyers. En conclusion, les conflits dans un couple, on pourrait dire ils sont inévitables, mais ils ne sont pas insurmontable. Et d'autant plus que nous croyons en l'action de Dieu et en croyant en Jésus-Christ, croyant en l'œuvre du Saint-Esprit, donc nous devons nous confier dans le Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons tout faire pour maintenir l'unité, l'amour dans nos foyers, dans nos couples, afin que nos familles soient gardées de toutes ces tentations. On va prier quelques instants le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir encore en cet instant, parce que tu es là au milieu de nous, tu connais les situations de chacun, ceux qui passent peut-être par une difficulté sur le plan conjugal, qui sont dans une relation conflictuelle, et nous te prions de faire grâce à chacun, Seigneur, d'aider ton peuple à vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie par le Saint-Esprit. Viens au secours, Seigneur, de toute situation désespérée, parce que, notre Dieu, nous savons que tu tiens toutes choses entre tes mains et nous te prions pour les épouses, pour les époux, afin qu'ils soient unis, afin qu'ils tiennent bon dans l'engagement qu'ils se sont adressés l'un vis-à-vis de l'autre pour la vie. Merci d'encourager chacun, Seigneur, et de nous garder toujours fidèles dans ta parole. À toi toute la gloire. Amen.